Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont vous pouvez retrouver les derniers opus dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'épisodes de pollution, mais il n'y en a pas trop eu cette semaine. On aurait pu vous parler de révolution à l'occasion de la rencontre avec les autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la révolution » sous-titré « Récits de femmes internationalistes au Rojava ». Une rencontre organisée par le collectif féministe unitaire, samedi 29 janvier à 17h. Pour les auditeurs du direct, allez-y, ces maisons de quartier des Ardriers, 8 rue du Hapeau à Le Mans. Alors, qu'est-ce que cela est-il donc? Eh bien, l'Occident a pris connaissance du Rojava par les luttes que sa milice a menées contre l'État islamiste et les victoires qu'elle a remportées depuis Kobani en janvier 2015 jusqu'à Baghouz en mars 2019. Voilà ce qu'on peut lire dans la fascinante démocratie du Rojava, sous-titré Le contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord, un bouquin de Pierre Bance aux éditions Rouge et Noir, Pierre Bance, qu'on avait rencontré en octobre dernier. Je continue. Il l'a plaint. Donc l'Occident a plaint le Rojava. Il l'a plaint après les trahisons de Vladimir Poutine et de Donald Trump et les invasions de l'ogre turc qui s'en sont suivies en janvier 2018 et en octobre 2019. Ces médias l'ont idéalisé avec des images d'Hollywood surfant sur la souffrance des combattantes kurdes. On ne peut s'en tenir là. Le Rojava, c'est plus que des batailles militaires, c'est aussi une bataille des idées. Voilà pourquoi cette démocratie d'un nouveau genre dérange les gouvernants des démocraties occidentales, glace ceux du Moyen-Orient. Voilà pourquoi elles intéressent la révolution du Rojava, autant les démocrates de gauche qui peuvent y trouver matière à rénover une doctrine déconsidérée par l'exercice du pouvoir, que de droite pour épousseter un système de représentation contesté. Elle intéresse également les révolutionnaires. S'ils sont plutôt marxistes, ils y verront un système étatique plus présentable que la dictature du prolétariat léniniste et une reconsidération de la théorie du dépérissement de l'État. S'ils sont plutôt anarchistes, ils seront confrontés à la question de la compatibilité d'un État minimal avec une société libertaire dont ils sont convaincu qu'elle doit être sans État. Voilà une rapide présentation du Rojava. Bon, s'en suit pour Pierre Bance 500 pages d'informations diverses et variées sur la façon dont se déroule cette révolution dans le nord-est de la Syrie. Et pour en savoir un peu plus, eh bien, des femmes internationalistes sont allées au Rojava et vous présenteront donc leur bouquin « Nous vous écrivons depuis la Révolution » où on trouve justement un certain nombre de témoignages de personnes qui sont allées de quelques jours à plusieurs années au cœur de la plus jeune révolution du Moyen-Orient. Une porte ouverte aux réflexions et discussions pour se nourrir ici de ce qui est expérimenté là-bas. Donc, je rappelle que ça se déroule Maison de quartier des Ardriers, 8 rue du Hapeau à Le Mans, samedi 29 janvier à 17h. On aurait pu vous parler d'envie aussi. Je cite. T'as envie d'échanges, de rencontres et de moments conviviaux? Tu aimerais visionner un film et en discuter collectivement sans avoir à payer ni être contrôlé? T'as envie de partager un goûter et un verre? Eh ben, nous aussi. Alors, rencontrons-nous, passons d'agréables moments, libérons nos paroles et exprimons ensemble nos expériences et ressentis. Sortons du monde marchand et entrons dans celui de la gratuité. Nous ne sommes pas des consommateurs, consommatrices, mais des humains, des humaines. Ah oui, ben ça, c'est l'écriture inclusive, hein, faut tout le temps tout citer. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ça se passe samedi dimanche. Ça se passe samedi dimanche. Je reviens. Ça se passe dimanche 30 janvier à 14h30 à la Maison des Citoyens Citoyennes, place des Comtes du Maine. Et ça sera autour du film documentaire Debout les femmes, un film de Gilles Perret, documentariste connu pour ses films sur la sécurité sociale, notamment Ambroise Croizat, sur le programme du Conseil National de la Résistance. Et son co-auteur, c'est François Ruffin, député de la Somme France Insoumise et fondateur du journal Fakir, avec qui d'ailleurs Gilles Perret a déjà commis Je veux du soleil en 2019. Sur le mouvement des Gilets jaunes. Ce film raconte les conditions de travail de femmes d'auxiliaires de vie sociale, d'accompagnantes d'élèves en situation de handicap, de femmes de ménage, etc., au prétexte d'une mission parlementaire et la production d'un projet de loi sur ces métiers. On peut y voir donc la vie vécue par des femmes et la façon dont un texte de loi circule à l'Assemblée nationale. C'est intéressant et en l'occurrence, ça ouvre également des perspectives à la réflexion, à la discussion. Ça se passe donc dimanche 30 janvier à 14h30 à la Maison des Citoyens Yennes, place des Comte du Maine, diffusion donc du film documentaire Debout les femmes avec un film de Gilles Perret et François Ruffin. On aurait pu vous parler des bras qui m'en tombent. Dans Debout les femmes, on voit d'ailleurs une certaine Brigitte Bourguignon, alors présidente de la commission des affaires sociales, députée en marche depuis 2017, après avoir été élue en 2012 sous l'étiquette du Parti Socialiste. Bah oui, non, je suis con. Comme si le Parti Socialiste était socialiste. Donc elle a animé l'aile gauche de la Macronie. Si, ça existe. Ils ont appelé ça le pôle social. Depuis 2020, elle est membre de Territoire de Progrès, un parti créé par M. Le Drian et M. Dussopt. Alors Le Drian, est-ce qu'il est mis en examen, lui? Non, Dussopt, oui, mais pas Le Drian. Non, bah pas tous quand même. Pour regrouper des marcheurs de gauche qui sentent le vent tourner. En juillet 2021, elle devient ministre déléguée chargée de l'autonomie et c'est à ce titre qu'elle s'est fâchée toute rouge cette semaine en apprenant que des vieux se font maltraiter dans des maisons de retraite. Elle aurait dû demander, hein? On lui aurait dit. A fortiori, quand ces maisons de retraite sont privées, parce que le but est bien sûr de faire du pognon. Donc, des convocations, des communiqués, des plaidoyers vibrants, comme si ces gesticulations permettaient d'entrer dans le fond du problème. En l'occurrence, la possibilité de gagner du pognon sur la fin de vie des gens. Encore un secteur d'activité qui devrait être un secteur public, financé par la solidarité nationale, et où les résidents des institutions devraient pouvoir s'entraider, se soutenir en lien avec les professionnels. En attendant de créer des vrais lieux de vie pour vieux, hein, des colocs de vieux dans des maisons où appartement à taille humaine. Tiens, à lire pour faire un petit pas de côté, un autre. Puisque, oh, on entend là des appels vibrants, mais comment ça se fait que des gens gagnent de l'argent sur... Il s'agirait de voir s'il y a un secteur d'activité, un seul, où des gens devraient pouvoir accumuler pas mal de pognon aux dépens des autres. Ça s'appelle le capitalisme. J'aimerais bien savoir en quoi ça se justifie, ce capitalisme. Bon, à lire pour faire un pas de côté, un autre, avec le temps. Avec le temps... Non, ne chante pas, voilà, on vient de me dire ne chante pas, ah, ok. Donc, Avec le temps, c'est le titre, c'est de Suzanne Weber, ça a paru en 2003, et ça raconte des histoires sur justement le vieillir, et peut-être essayer de mieux vieillir. On aurait pu vous parler des chiffres du chômage qui chutent, et de la croissance qui bondit, mais la presse à genoux devant la philosophie libérale le fait tellement mieux que nous. On aura compris, d'ailleurs, du fait de la présence de ces chiffres rabâchés dans la presse à genoux devant la philosophie libérale, que ça n'a pas grande importance finalement, sauf pour ceux qui veulent continuer à nous faire croire que le système capitaliste fonctionne correctement, ouais, comme un yo-yo. On aurait pu vous parler des activités de plein air, toujours bonnes pour la santé et la santé physique, mais aussi la santé mentale. Mardi 25 janvier, un piquet de grève se trouvait devant l'usine des eaux au Sablon pour protester contre des conditions de vie dégradées dans les différents lieux où travaillent ces personnes. Et en l'occurrence... Eh bien, sur la liste, il apparaît que finalement, quand on travaille dans les services eau et assainissement et nature en ville, eh ben on a des difficultés d'abord pour avoir des locaux salubres, on a des difficultés pour avoir du matériel qu'on se partage entre services avec a priori des difficultés pour les récupérer. Tout ça, ça énerve tellement que mardi 25 janvier, il y avait un piquet de grève devant l'usine des eaux et donc une grève puisqu'il y avait piqué. Jeudi 27 janvier, c'est reparti, des piquets de grève étaient organisés par la CGT en l'occurrence à la poste de Sablé, à la poste de Le Mangard, devant la succursale Renault qui va être vendue, et devant la gare du Mans par les cheminots. Avant que tout ce beau monde se regroupe place de la préfecture, et après un sandwich revendicatif, ce sont 900 personnes qui s'élancent dans les rues du Mans derrière une banderole interprofessionnelle, regroupant la CNT, l'UNEF, FO, la CGT et la FSU. En clair, les drapeaux et autocollants arborés dans le cortège. On a vu également quelques drapeaux lutte ouvrière et un drapeau révolution permanente. Ah oui, du nom du site d'information animé par le courant communiste révolutionnaire. Une tendance du nouveau parti anticapitaliste. Révolution permanente qui tente de présenter un candidat à la présidence de la République, Anas Kazib, un cheminot sudiste. Eh oui, on est loin des énarques, des presque énarques et des banquiers d'affaires qui composent bon nombre de nos candidats au poste suprême. La banderole affirme, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, il est son allié. Bon, référence au faible niveau de rémunération des fonctionnaires, dont le point est gelé depuis plus de 10 ans. Un militant info dans le cortège portait d'ailleurs une pancarte autour du cou réclamant une hausse de 22,86%, c'est précis. Une hausse de 22,86% du point d'indice pour rattraper la perte de salaire vis-à-vis de l'inflation. Une manif pour de meilleurs salaires et pour l'égalité, parce qu'on a pu entendre par exemple ça.
Femme de ménage, AESH, aide à domicile, auxiliaire de vie, institutrice, prof, infirmière, métier essentiel, salaire de misère, femme de ménage, AESH, aide
est allé ensuite rue de la Galère où siège le MEDEF, ça ne s'invente pas. Essayez de donner rendez-vous la prochaine fois. C'est-à-dire bah, la prochaine fois. Alors, dans les différents secteurs, la lutte continue. Là, c'était une manifestation grève interprofessionnelle. Mais parfois, ça dure un peu plus longtemps qu'une journée un peu symbolique, un peu spectaculaire, comme celle du jeudi 27 janvier. Oui, oui. Par exemple, en Bretagne, mardi 1er février, c'est le Pôle emploi qui se mobilise. Peut-être le 2, on ne sait pas. Chez Dassault, l'avionneur, les contrats faramineux pour les pays du Golfe, qui se comptent en milliards, ont énervé les ouvriers pour lesquels la direction prévoit des augmentations annuelles de misère, qui ne compensent même pas l'inflation. Ça dure depuis 4 mois en Savoie, 8 mois en région parisienne, 8 sites sont touchés. Un peu partout autour de nous, eh bien, il y a des gens qui luttent. Pourquoi ? Pour essayer de vivre un petit peu mieux dans ce monde où finalement il faut de plus en plus de pognon pour avoir la possibilité d'avoir une vie à peu près potable. On aurait pu vous parler de la police qui tue, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Alors ben, on va vous parler d'un certain Karl Polanyi. On a vu précédemment que Karl Polanyi, 1886-1964, avait analysé la société de marché comme le résultat inéluctable de la mise en place d'une économie de marché. Une économie désencastrée du reste du champ social et qui finit par dominer l'ensemble des liens sociaux. Cette économie, née de la philosophie libérale, s'appuie sur le capitalisme, transforme tout en marchandises, y compris le travail, c'est-à-dire les machines et les humains, la terre, c'est-à-dire la nature, la monnaie. Trois marchandises que Karl Polanyi qualifie de fictives puisqu'elles n'ont pas été créées pour être vendues. Nous avons vu également que les sociétés résistent à cette économisation du monde en entravant l'idéologie libérale par des lois sur le salaire minimum, la durée du travail, la responsabilité des entrepreneurs dans les accidents du travail, alors même que les sociétés, les dites sociétés diffusent l'idéologie libérale et en font un but sociétal dans tant la propagande vante la rationalité économique comme une fin en soi. C'est ce que Karl Polanyi appelle le double mouvement, toujours à l'œuvre actuellement. Un double mouvement incompréhensible pour les tenants du libéralisme, adeptes d'une croyance, l'humain effectue un travail seulement motivé par la peur de la faim ou et l'appât du gain. Cet humain fantasmé par les libéraux est l'homo economicus. Oui, une sorte de chimère. Hein. Une fois la chimère créée, on attend d'elle qu'elle soit ce pour quoi elle fut créée. Extrait de « La mentalité du marché est obsolète », un article de 1947. Dès que, en effet, la société attend de ses membres un type défini de comportement et que les institutions prédominantes sont généralement en mesure de l'imposer, les idées concernant la nature de l'homme vont avoir tendance à refléter cet idéal, qu'il corresponde ou non à la réalité. En conséquence, la faim et le gain étaient définis comme des motivations économiques et l'homme était censé agir en fonction de ces deux facteurs dans sa vie de tous les jours. Alors que ces autres motivations étaient présentées comme plus éthérées et éloignées des faits prosaïques de l'existence. Le sens de l'honneur et la fierté, le sens civique et le devoir moral, même le respect de soi et le sens des convenances furent désormais considérés comme ne relevant pas de la production et résumés de façon significative par le terme idéal. Alors, on croyait que l'homme avait deux composantes, une part de lui apparentée à la faim et au gain, l'autre à l'honneur et au pouvoir, une part matérielle, l'autre idéale, la première économique, l'autre non économique, la première rationnelle et l'autre non rationnelle. Les utilitaristes allèrent si loin qu'ils identifièrent les deux séries de termes attribuant Les utilitaristes allèrent si loin qu'ils identifièrent les deux séries de termes, attribuant dès lors l'aura de la rationalité au côté économique du caractère de l'homme. Ainsi, celui qui aurait refusé de reconnaître qu'il agissait seulement par amour du gain serait passé non seulement pour un être immoral, mais aussi pour un fou. On retrouve ici la critique des utilitaristes, voulant le bonheur du plus grand nombre pour la rationalité de choix, niant la dimension intérieure de l'homme. La confirmation va de pair avec la définition du modèle. Et cette conformation à la nature n'est pas loin. Toujours dans « La mentalité du marché est obsolète », dans le chapitre 6 intitulé « Le déterminisme économique ». Le mécanisme du marché a également créé l'illusion que le déterminisme économique était une loi générale pour toute société humaine. Naturellement, cette loi est vérifiée dans une économie de marché. En effet, le système économique tel qu'il fonctionne n'influence pas seulement le reste de la société, il le détermine aussi, et de la même façon que les côtés d'un triangle n'influencent pas seulement les angles, mais les déterminent également. Prenons la stratification en classe. l'offre et la demande sur le marché du travail étaient identiques, respectivement à la classe des travailleurs et à celle des employeurs. Les classes sociales des capitalistes, des propriétaires fonciers, des tenanciers, des courtiers, des marchands, des professions libérales, etc., étaient déterminées par les marchés correspondants de la terre, de la monnaie, du capital et de divers services. Les revenus de ces classes sociales étaient fixés par le marché, leur rang et leur position dans la société par leurs revenus. Cela constitua un bouleversement total d'une pratique séculaire. Selon l'expression célèbre de Maine, le contractus a remplacé le status. Ou comme le dit Tonise, T-O-N-I-E-S, la communauté a fait place à la société. En ce qui nous concerne, nous dirons que les relations sociales sont désormais enchâssées dans le système économique, alors qu'autrefois, le système économique était enchâssé dans les relations sociales. Voilà donc ce qui a totalement modifié la vision que l'homme peut avoir de lui-même avec la philosophie libérale. Et d'où la création de cette chimère, l'homo economicus, qui ne serait motivé que par le gain et que par la faim. Il continue d'ailleurs dans le chapitre suivant, le sexe et la faim. Tenter d'appliquer le déterminisme économique à toutes les sociétés humaines relève presque du fantastique. Pour tous ceux qui étudient l'anthropologie sociale, il est bien évident qu'un grand nombre d'institutions très diverses sont compatibles avec des moyens de production presque identiques. La créativité institutionnelle de l'homme n'a été suspendue que lorsqu'on a permis au marché de broyer le tissu social pour lui donner l'apparence uniforme et monotone de l'érosion lunaire. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que son imagination sociale montre des signes de grande fatigue. Un jour peut-être sera-t-il devenu incapable de retrouver la souplesse, la richesse et le pouvoir imaginatif de ses attributs primitifs. J'ai conscience qu'il est inutile de me défendre aux yeux de ceux qui me prendront pour un idéaliste. Celui qui, en effet, remet en cause l'importance des motivations matérielles est supposé s'appuyer sur la force des motivations qualifiées d'idéales. Il s'agit pourtant d'une très grave erreur d'interprétation. La faim et le gain n'ont rien de particulièrement matériel. À l'inverse, la fierté, l'honneur et le pouvoir ne sont pas nécessairement des motivations plus élevées que la faim et le gain. Car pour Karl Polanyi, il l'assure en tout cas, les motivations à agir ne se limitent pas à la rationalité économique, défendue par les libéraux. Sinon, pas de mouvement de défense des sociétés dans la seconde moitié du XIXe siècle et la mise en œuvre d'une législation sociale. Si véritablement tout le monde était motivé, si tout le monde ressemblait à cet homo economicus motivé par l'appât du gain et la faim. Pourquoi protéger certains ? Ça servirait à rien, puisque ça ne nous rapporte rien à nous. Pour Capet, pour Karl Polanyi, l'homo economicus n'est pas le modèle. Dans La Grande Transformation, sous-titré « Aux origines politiques et économiques de notre temps », paru en 1944, on peut lire « Les secteurs et les groupes qui ont participé par intermittence au mouvement général vers le protectionnisme après 1870 ne l'ont pas fait au premier chef à cause de leurs intérêts économiques. Les mesures « collectivistes », il met ça entre guillemets, prises durant les années critiques, relève que l'intérêt de quelques classes uniques n'était qu'exceptionnellement en cause. Et ce, dans le cas, on peut rarement dire qu'il s'est agi d'un intérêt économique. Assurément, ce n'était pas des intérêts économiques à courte vue que servait une loi autorisant l'administration d'une ville à prendre à sa charge l'esthétique des lieux publics négligés, ou des réglementations exigeant que les boulangeries soient lavées à l'eau chaude et au savon au moins une fois tous les 6 mois, ou une loi rendant obligatoire d'essayer les câbles et ancres. Ces mesures répondaient simplement aux nécessités d'une civilisation industrielle qui ne pouvait être satisfaite par les méthodes du marché. Sur les revenus, la majeure partie de ces interventions n'avait aucune portée directe, et guère plus qu'une portée indirecte. C'est vrai en pratique que toutes les lois se rapportant à la santé et aux exploitations rurales, aux bibliothèques et aux commodités publiques, aux conditions de travail dans les usines et aux assurances sociales. Ce n'est pas moins vrai des services publics, de l'éducation, des transports et d'innombrables autres questions. Mais même quand des valeurs pécuniaires entraient en cause, il n'était d'un intérêt secondaire. Il s'agissait presque invariablement de statut professionnel, de sécurité, d'une vie plus humaine et plus large, d'un environnement plus stable. Il ne faut d'aucune manière sous-estimer l'importance pécuniaire de certaines interventions caractéristiques, comme les droits de douane ou les indemnités pour les accidents du travail. Mais même dans ces cas, les intérêts non pécuniaires étaient inséparables des intérêts qui l'étaient. Les droits de douane qui entraînaient des profits pour les capitalistes et les salaires pour les ouvriers signifiaient en fin de compte sécurité contre le chômage, stabilisation des conditions régionales, assurance contre la liquidation d'industrie et peut-être et surtout permettaient d'échapper à cette douloureuse perte de statut qui est inévitablement qui est inévitable lorsqu'on est transféré à un travail où l'on a moins d'habileté et d'expérience que dans le sien propre. Donc, de fait, pour lui, c'est précisément parce que ce n'étaient pas les intérêts économiques, mais les intérêts sociaux des différentes tranches de la population qui étaient menacées par le marché, que des personnes appartenant à diverses couches économiques joignaient inconsciemment leurs forces pour faire face aux dangers. Eh bien, les libéraux, eux, assurent que leurs lois n'ont d'autre source que la nature. Toujours dans la grande transformation, Karl Polanyi s'intéresse au fondement de cette philosophie libérale et qui permet de dire que l'homo economicus est donc tout simplement naturel. En premier lieu, la théorie économique des économistes classiques est essentiellement confuse. Le parallélisme entre la richesse et la valeur introduite des pseudo-problèmes les plus embarrassants sont presque tous les départements de l'économie ricardienne, de l'ami Ricardo. La théorie du fonds des salaires, héritée d'Adam Smith, est une abondante source de malentendus. En dehors de quelques théories particulières, comme celle de la rente, celle de la taxation et celle du commerce extérieur, où elles offrent des aperçus profonds, la théorie consiste en tentatives désespérées pour atteindre des conclusions catégoriques à propos de termes définis de manière vague, avec la prétention d'expliquer le comportement des prix, la formation des revenus, le process de la production, l'influence des coûts sur les prix, le niveau des profits, des salaires et de l'intérêt. Question qui, pour la plupart, reste aussi obscure qu'auparavant. De fait, il apparaît pour Karl Polanyi que finalement de la nature n'a été retenue que la violence des rapports entre animaux chasseurs et chassés. Mais rien n'y fait. Pour lui, l'homo economicus, triste animal motivé par la faim et l'appât du gain, n'est pas l'homme. Il en veut pour preuve les travaux des ethnologues, sociologues, anthropologues et autres observateurs attentifs des mœurs humaines. Pour Karl Polanyi, il convient que ces savants aient en tête la signification du terme économique qui peut revêtir au moins deux acceptations. Dans la subsistance de l'homme, on trouve sa définition de l'économie substantielle et celle de l'économie formelle. Et si on se met à la mélanger les deux, eh bien c'est forcément la formelle qui va fonctionner. On peut donc lire dans l'ouvrage « La subsistance de l'homme » qui est paru en 1964 à titre posthume, « Toute tentative visant à expliquer la place qu'occupe l'économie dans la société doit partir de l'idée que le terme économique, habituellement employé pour décrire un certain type d'activité humaine, combine deux significations. Leurs origines différentes et indépendantes ne sont pas difficiles à identifier, même si l'on dispose d'un certain nombre de mots à peu près synonymes pour chacune d'entre elles. La première signification formelle vient du caractère logique de la relation entre les moyens et les fins, comme dans les termes « economizing » et « economical ». La définition du terme « économique » par la rareté en découle. Et là, on est plutôt du côté des libéraux. La deuxième signification souligne ce fait primordial que les hommes, comme tous les autres êtres vivants, ne peuvent vivre durablement sans un environnement physique où ils trouvent leur subsistance. C'est l'origine de la définition substantielle de ce qui est économique. Les deux significations, formelles et substantielles, n'ont rien en commun. Le concept habituel d'économique est donc un amalgame de deux significations distinctes. Quoique peu de gens soient prêts à le nier, on en évoque rarement les conséquences pour les sciences sociales. Chaque fois que la sociologie, l'anthropologie ou l'histoire traitent de questions qui se rapportent aux moyens d'existence de l'homme, le terme économique est employé comme s'il était évident. Mais son usage varie. Le cadre de référence utilisé étant tantôt celui de son acceptation fondée sur la rareté, tantôt celui de son acceptation substantielle, oscillant ainsi entre deux pôles de signification sans rapport. La signification substantielle vient en effet de la dépendance manifeste de l'homme vis-à-vis de la nature et de ses semblables. Pour obtenir sa subsistance, il doit sa survie à une interaction institutionnelle avec son environnement naturel. Ce processus, c'est l'économie qui fournit à l'homme les moyens de pourvoir à ses besoins matériels. Cela ne signifie pas que les besoins qu'il faut satisfaire sont exclusivement physiques, comme la nourriture et l'habitat, aussi importants ces derniers soient-ils pour la survie. Car cela reviendrait à restreindre de façon absurde le domaine de l'économie. Ce sont les moyens et non les besoins qui sont matériels. Peu importe que les objets utiles servent à prévenir la famine ou aient des fins éducatives, militaires ou religieuses, tant que la satisfaction des besoins dépend d'objets matériels, la référence est économique. Économique ne signifie rien d'autre ici que se rapportant au processus de satisfaction des besoins matériels. Étudier la subsistance de l'homme, c'est étudier l'économie dans ce sens substantiel. Dans l'ensemble de notre ouvrage, c'est cette signification du terme économique que nous utiliserons. Le sens formel a une origine tout à fait différente. Rapportant des moyens aux fins, il représente une catégorie universelle dont les référents ne se limitent à aucun aspect particulier des êtres humains. On qualifie de formel les expressions logiques ou mathématiques de ce genre par opposition au domaine spécifique auquel on les applique. C'est une même signification qui sous-tend le verbe maximiser ou le terme plus populaire, economizing. Ou encore, d'une manière moins technique, mais qui est peut-être la plus précise de toutes, l'expression « tirer le maximum des moyens dont on dispose ». Un peu plus loin, on peut comprendre la solidité de l'assemblage des deux significations quand on considère l'ironique destin du personnage le plus controversé de la mythologie moderne, l'homme économique, l'homo economicus. On a contesté les hypothèses qui sont à l'origine de cette créature légendaire de la science, de tous les points de vue possibles, psychologique, moral, méthodologique. Cependant, le sens de l'expression économique ne fut jamais sérieusement mis en doute. Les controverses ont porté sur le concept d'homme, non sur le terme économique. Autre question ? Aucune question ne fut posée pour savoir auquel des deux ensembles d'attributs renvoyait cette épithète. Ceux d'une entité relevant de la nature, dont l'existence dépendait du soutien des conditions de son environnement, c'est le cas pour les plantes et les animaux, ou bien celle d'une entité relevant de l'esprit, soumise à la norme des résultats maximum pour une dépense minimum, c'est le cas pour les anges ou les démons, les nouveau-nés ou les philosophes, pour autant qu'on les crédite de la raison. On considérera au contraire comme acquis que l'homme économique, ce représentant authentique du rationalisme du XIXe siècle, vivait dans un monde de paroles où l'existence brute et le principe de maximisation étaient fantastiquement combinés. Notre héros était à la fois attaqué et défendu en tant que symbole d'une unité conjuguant l'idéal et le matériel, qui sur cette base serait selon les cas approuvé ou réfuté. Ce débat séculaire ne dévia jamais vers un examen même superficiel de la question de savoir à quelle signification du terme économique rattacher l'homme économique, au sens formel ou au sens substantiel. Donc de fait, pour lui, de la nature, donc voilà donc un sort fait à l'homme économique qui est ancré dans nos sociétés malgré tout, puisque ce concept a la vie dure, et par malhonnêteté intellectuelle ou idéologique, les libéraux voient des hommes economicus partout, dans la mentalité du marché est obsolète. Il nous parle d'une naissance d'une illusion. Dès qu'en effet la société attend de ses membres un type défini de comportement et que les institutions prédominantes sont généralement en mesure de l'imposer, les idées concernant la nature de l'homme vont avoir tendance à refléter cet idéal qu'il corresponde ou non à la réalité. Ce que nous avons lu au début, eh bien se conforme à la fin. Un fou non conforme, est-ce vraiment le cas de celui qui ne croit pas absolument que sa vie est dominée par la faim et le gain et qui ne cherche pas à maximiser l'ensemble de ce qu'il pourrait posséder, l'ensemble de ses relations économiques ou l'ensemble de ses relations sociales? Est-ce vraiment le cas? La prochaine fois, finalement, nous quitterons Karl Polanyi, dont les travaux remettent à sa place l'économie, simple activité de subsistance que nous devons réencastrer dans le champ social si nous voulons agir en humain et non pas en homme économique. Mais nous le quitterons pas tout à fait, puisqu'on va aller faire un tour chez les libéraux et l'anthropologie. Pourquoi ? Ben pour voir si cet homme economicus a une réalité. Allez, on se quitte, on se retrouvera la semaine prochaine. Et puis malheureusement, pendant cette semaine, il va se passer des choses un petit peu graves et puis des choses beaucoup moins. Et j'espère pour d'autres que ça sera vraiment terrible ce qui se passera. Alors terrible dans le sens où c'est trop, trop bien. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous dis tout simplement, allez faire un petit tour à 8 rue du Hapeau, à la maison de quartier des Ardriers, cet après-midi pour les auditeurs du direct. Et puis demain à 14h30, à la maison des citoyens citoyennes pour aller voir le film Debout les femmes et en discuter après. Et en attendant, je vous dis tout simplement allez, au revoir.